Vous êtes sur RTL.
RTL Soir.
Avec Marion Calais.
Et l'heure d'un nouveau journal avec vous, Aude Vernuccio, bonsoir.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
À la une, la police a nouveau endeuillé ce jeudi 10 suicides en seulement un mois.
Un agent administratif s'est jeté du toit du commissariat de Rennes. Vive émotion mêlée d'incompréhension ce soir. Face à la pandémie, deux pays, deux stratégies. En France, premier pas du pass vaccinal. En Espagne, on supprime carrément le pass sanitaire. C'est le cas en Catalogne. Et puis en ce 77e anniversaire de la libération du camp de la mort, Emmanuel Macron appelle à ne pas oublier les atrocités de l'histoire. Allusion claire au discours d'Éric Zemmour, vous l'entendrez.
RTL Soir.
Le journal Marion Calais, Aude Vernuccio.
10 suicides dans la police en un mois, c'est du jamais vu. Un agent administratif a mis fin à ses jours à la mi-journée en se jetant du toit du commissariat central de Rennes. Nicolas Bobby, les équipes sont sous le choc ce soir.
Effectivement, le choc est immense. Ce soir, au commissariat de Rennes, l'homme est monté au 7e étage, puis sur le toit avant de se jeter dans le vide. Son corps est tombé dans un patio, une cour intérieure. Plusieurs fonctionnaires de police en pause cigarette ont assisté impuissants à cette scène terrible, insoutenable. Le SAMU n'a pas pu le réanimer, des psychologues sont sur place. Même s'il ne se rendait pas sur le terrain, l'agent administratif était connu et apprécié pour ses compétences informatiques dans les nombreux services du commissariat central. Les policiers rennais et leurs syndicalistes sont extrêmement choqués. Ils ne trouvent pas la force de s'exprimer au micro. De sources syndicales, c'est le 4e suicide qui endeuille le commissariat de Rennes depuis le mois de juin de l'année dernière.
Nicolas Bobby à Rennes pour RTL.
En Seine-et-Marne, cette macabre découverte, un enfant de 10 ans a été retrouvé mort dans une valise jetée dans une benne à gravats à Ferrières-en-Brie.
Au lendemain de sa disparition, sa mère, une femme de 33 ans, fragile psychologiquement, est activement recherchée. Des traces de sang ont été retrouvées au domicile du couple. C'est le père qui a donné l'alerte.
RTL vous le révélait dès hier matin, 1300 militants d'ultra-droite fichés S en France avec la crainte d'un passage à l'acte.
Depuis hier, un ancien militaire est jugé à Paris, soupçonné d'avoir projeté des attaques contre la communauté juive et notamment près de Limoges. Il avait même publié la liste de ses cibles potentielles sur les réseaux sociaux, Anne Le Hénaff.
Oui, la photo d'un bâtiment à Strasbourg et des adresses de synagogues ou d'écoles juives à Limoges, à Paris, à Montrouge ou à Clermont-Ferrand. Il a aussi cherché « Tuer des juifs Limoges » sur Internet. À chaque question, Aurélien, pull noir et cheveux ras, soupire dans son box. C'était des conneries, c'était pour faire le buzz. Jamais je ne serais passé à l'acte. Mais l'ancien gilet jaune peine à convaincre la cour qu'il n'était pas sur le point de commettre un massacre, car il avait chez lui des armes, beaucoup de munitions, des grenades. Il baignait par ailleurs dans la propagande néo-nazie, les films et les livres, et il a proposé à des suprémacistes américains, défenseurs de la race blanche, de créer une succursale en France. Juste avant d'être arrêté, Aurélien a posté une photo de lui avec un panneau « Tuerie de masse », les deux S de masse écrits en lettres gothiques comme SS. « Je voulais juste choquer, marmonne Aurélien. C'était comme une secte. Une fois qu'on est dedans, c'est compliqué d'en sortir. Mais jamais j'aurais tué qui que ce soit. Je le jure », répète-t-il au président, dubitatif.
Anne Le Hénaff du service police-justice d'RTL. L'ancien militaire risque 10 ans de prison.
À chacun sa stratégie. En France, première semaine sous passe vaccinale, alors que l'Espagne, elle, voit les régions lever petit à petit les restrictions.
En Catalogne, à partir de ce soir, minuit, terminé le passe sanitaire à l'entrée des bars, des cafés, des salles de sport. Avis plutôt partagé à Barcelone, Aurélie Chameroy.
Oui, la nouvelle a été accueillie avec surprise, mais surtout avec enthousiasme par les professionnels concernés, comme Alberto Pérez, restaurateur.
Tout à fait, car notre métier n'a rien à voir avec celui d'un contrôleur ou d'un soignant. Donc c'est vraiment un soulagement parce que ce n'est pas notre travail et parce qu'on n'avait pas le temps de le faire.
Pour une grande partie des Catalans, le pass sanitaire n'avait plus de raison d'être et sa suppression offre une certaine respiration.
Je viens de me faire un test antigénique pour avoir le pass sanitaire, justement. Mais c'est bien, ça me paraît normal. L'État ne devrait pas contrôler autant sa population.
Finalement, on a réussi. Moi, je n'étais pas en faveur du pass sanitaire. Je pense que ça n'est pas nécessaire.
Mais certains, et notamment les plus âgés, sont moins convaincus.
Ce n'est pas bien, car il y a encore beaucoup de gens qui se contaminent. Et je pense que l'on devrait nous contrôler plus.
À l'image de la Catalogne, d'autres régions espagnoles, comme les Asturies ou la Cantabrie, mettent fin cette semaine au pass sanitaire et à la plupart de leurs restrictions.
Alors, Le reportage signé Aurélie Chameroy, correspondante d'RTL en Espagne.
19h05 sur RTL et ce dernier hommage à Gaspard Ulliel, l'acteur de 37 ans, victime d'un tragique accident de ski la semaine dernière à la station de La Rosière.
Sa famille, ses amis du cinéma étaient réunis ce matin en l'église Saint-Eustache à Paris. À l'extérieur, beaucoup de fans, des anonymes qui ont tenu à être présents, Vincent Serrano.
Oui, ils étaient plusieurs centaines rassemblés ici à fixer sans un bruit la grande photo en noir et blanc laissée par la famille à l'extérieur, posée sur un chevalet, le portrait de l'acteur clope au bec, le regard droit devant, comme s'il savait qu'on était là. C'est ce que m'a dit Julie, qu'il connaissait depuis le collège.
C'est avec les aléas de la vie où on n'avait pas forcément gardé énormément contact. C'est forcément quelque chose de très absurde en fait comme nouvelle. Un rappel que tout peut s'arrêter très vite, mais au lycée c'était quelqu'un de très apprécié, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, quelqu'un qui nous a tous un petit peu marqués. Oui, c'est un jour pas facile. Ouais.
Autour d'elle, des hommes, des femmes, de toutes les générations touchées par les 37 années que Gaspard Ulliel ne dépassera jamais. 37, c'est l'âge de Martin, comédien lui aussi.
Un hommage à voilà, celui qui m'a énormément inspiré. J'ai jamais eu la chance de rencontrer cette personne, mais c'était fou. Dans le cinéma, on appelle ça cramer la pellicule, quelque chose qui sortait de lui. C'était impressionnant, quoi. Il était très envoûtant et partir aussitôt, de toute façon, ses films et son travail de comédien resteront éternels. Et voilà.
Alors la photo de Gaspard Ulliel est partie enlevée de ce parvis de l'église Saint-Eustache. Pas la rose que Martin y a déposé en fin de matinée.
Le reportage de Vincent Serrano à Paris pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant et 77 ans après la libération du camp d'Auschwitz, l'appel d'Emmanuel Macron à ne pas répéter les atrocités de l'histoire. À tout de suite.
RTL Soir
avec Marion Calais.
RTL Soir
avec Marion Calais.
La suite du journal d'Aude Vernuccio avec cette journée de commémoration 77 ans après la libération du camp d'Auschwitz.
À Paris, dans une vidéo tournée à l'Élysée, Emmanuel Macron a lancé un appel ce soir à ne pas oublier les victimes de l'Holocauste et à continuer le combat en faisant clairement allusion au discours d'Éric Zemmour sans le nommer.
Ce combat, malheureusement, est redevenu d'actualité car les vents mauvais ressoufflent, car des discours politiques s'installent, car des falsifications de l'histoire sont là à nouveau. Car des actes au quotidien sont là pour nous rappeler que nous n'avons pas fini ce combat. Nous n'y céderons rien.
Les mots d'Emmanuel Macron ce soir sur les réseaux sociaux.
C'est une annonce qui a été faite aujourd'hui, annonce de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi avec cet investissement record pour le groupe, 23 milliards d'euros sur la table.
Et un projet prioritaire, électrifier les futurs nouveaux modèles de voitures, Christophe Bourreau.
Et ce sont pas moins de 35 nouveaux modèles 100% électriques qui vont voir le jour d'ici à 2030. Ainsi vont se mettre en place des plateformes communes qui permettront de produire aussi bien des Renault que des Nissan. C'est déjà le cas à l'usine de Douai avec la future Mégane électrique dont la production a démarré. Puis en 2024, une autre plateforme verra le jour toujours dans le nord de la France pour y assembler la future R5 et la Nissan Micra, mais aussi, même si ce n'est pas encore officiel, la mythique 4L version branchée. En tout cas, cette mutualisation va permettre de réduire les coûts pour proposer des voitures de moins en moins chères. L'objectif est par exemple de lancer une Renault 5 électrique à moins de 20 000 euros. Reste que ce plan d'investissement particulièrement lourd, colossal, 23 milliards d'euros, et tout de même beaucoup moins important que les gros concurrents comme Volkswagen ou Toyota, qui lui va consacrer 70 milliards de dollars à l'électrification de sa flotte.
Les précisions de Christophe Bourreau.
C'est notre rendez-vous quotidien dans ce journal. 7 jours, 7 reportages. Chaque jour, nos correspondants parlent des sujets qui vous préoccupent. Ici, le second tour de l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, direction Annemasse à la frontière suisse.
Une ville de 90 000 habitants. Un tiers travaille de l'autre côté, à Genève, avec un SMIC à près de 4 000 euros. Il faut dire que la tentation est grande, Frédéric Perruche.
Comme de très nombreux jeunes frontaliers, Maxime attend son train pour Genève avec le sourire, car à peine sorti de son école d'ingénieur, il a décroché le jackpot.
Je suis à un peu plus de 4000 euros.
4000 euros net, premier salaire.
C'est ça. Et bien évidemment, par rapport à tous mes camarades de ma promo, je suis dans le top 1 des salaires. J'ai pas à me plaindre, on va dire.
Julien, 33 ans, est cuisinier depuis 7 ans à Genève et clairement, entre la montagne, le lac et le salaire, il ne regrette pas son choix.
Bah là, sur un temps plein où je vais faire les 180 heures, 3500 euros à peu près.
Et ça peut monter jusqu'à combien du coup?
Brut, sur les mois d'été, quand je suis à 220 heures, je monte à 6500 à peu près. Ce qui est vraiment intéressant pour pour un cuisinier.
Avec un SMIC genevois à plus de 4000 euros, difficile de recruter côté français, malgré les efforts sociaux et salariaux faits par les entreprises, regrette Laurent Vinci, directeur de l'hôtel Mercure d'Annemasse.
Beaucoup de personnes prennent une expérience et au bout de quelques mois, ils regardent un petit peu comment ça se passe de l'autre côté et ils partent. Et puis on est souvent en peine parce qu'il n'y a pas d'employés ici. Beaucoup sont au chômage en France, mais ils attendent qu'un emploi se libère sur Suisse.
Et chaque jour, ce sont 27 000 travailleurs de l'agglomération d'Annemasse qui passent la frontière, soit près du tiers de la population.
Le reportage de Frédéric Perruche pour RTL.
Bonsoir Julien Strangin.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des éditions du Dauphiné Libéré pour la Savoie et la Haute-Savoie. Vous avez été notre partenaire aujourd'hui pour ce reportage que l'on vient d'entendre à Annemasse. Alors, vos lecteurs, eux, comment vous les sentez? Quel sujet considèrent-ils comme prioritaire dans cette campagne?
Ah ben, sans surprise, évidemment, dans la zone frontalière, leurs sujets principaux de préoccupation, c'est le pouvoir d'achat, parce qu'il y a des disparités entre les salaires français et les salaires suisses. C'est les transports, parce que c'est un problème énorme dans notre région. On l'a vu dans votre reportage. Et puis, le troisième point, c'est évidemment le logement. Donc, ce sont vraiment les trois points sur lesquels nos lecteurs sont extrêmement attentifs à l'aube de cette campagne présidentielle.
Justement, on est à moins de trois mois de cette élection. Est-ce que vous avez la sensation que les électeurs portent de l'intérêt sur cette campagne? Est-ce qu'on sent que ça commence à monter un peu?
Alors évidemment, la préoccupation sanitaire est encore prioritaire, mais ça commence tranquillement à monter. Nous, on le sent bien dans tous les reportages qu'on peut faire, des témoins qu'on interroge, des politiques qu'on fait parler. On commence à sentir monter cette préoccupation, peut-être simplement parce que les gens ont envie d'entendre parler d'autre chose que de la pandémie. Oui. Ça commence à prendre, oui, ça commence à prendre.
Un frémissement, donc, que vous sentez chez vos lecteurs du Dauphiné Libéré. Merci beaucoup, Julien Strangin, directeur des éditions du Dauphiné, donc pour la Savoie et la Haute-Savoie, d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et n'hésitez pas à réécouter notre série 7 jours, 7 reportages sur l'application RTL et sur RTL.fr. On l'apprend à l'instant, près de 400 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures. Un chiffre en baisse. Il y a une semaine pile, on en comptait 425 000. Les sports et en handball, malgré un euro tourmenté par les cas de Covid, la France a décroché son ticket pour la demi-finale. Victoire 30-29 face au Danemark. Guillaume Gilles, l'entraîneur référent lui-même contaminé, a suivi le match dans sa chambre d'hôtel. Fin de match haletante.
J'avoue qu'on a réussi à faire un peu de morse entre chambres, entre Covidés, dans les réactions à la fois un peu d'énervement parce qu'on ne trouvait pas notre rythme, on ne trouvait pas notre jeu dans ce début de match. Et malgré tout ça, sentir qu'il y avait toujours de l'espoir, qu'il y avait toujours quelque chose à faire dans cette rencontre. Et au moment où ça bascule et au moment où on revient, il y a quelques cris qui ont été lâchés et de ma chambre et des chambres voisines. Cette espèce d'union des Covidés à distance était assez marrant.
Des propos recueillis par Isabelle Langer pour RTL, demi-finale face à la Suède, ce sera demain soir.
Et on suivra ça, évidemment, dans les flashs, sur RTL. La météo à présent, Peggy Broche.